À la rencontre de ceux qui font l'actualité dans l'Est ontarien, Guillermo sur la Go. Voici Guillermo Todesa.
Aujourd'hui, j'ai encore le grand plaisir de m'entretenir avec le coach Bob Bartley. Salut Bob, comment ça va?
Salut Guillermo, ça va super bien, merci.
Yes, content de te reparler, Bob. Et écoute, on se reparle encore parce que c'est en vue du tournoi de golf Saint-Pierre-Apôtre, la classique du clocher. Et puis, tous les billets ont été vendus pour le tournoi. Laisse-moi dire une chose, je suis pas surpris que les billets sont tous partis.
Bien, et je pense que, le comité de bénévoles a fait un travail colossal, autant au point de vue Facebook, au point de vue... marketing, au point de vue présentation, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont mis du temps, soit à l'enseigne en avant de l'église, ensuite, je sais qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de meetings à préparer soit l'enregistrement, à préparer la journée, les commanditaires, aller voir tous les commanditaires, donc les bénévoles, les commanditaires d'Hawkesbury de la région. Les joueurs qui vont évidemment être présents mardi prochain. Je vais dire, la communauté s'est soudée. On a une belle église, elle a besoin d'un peu d'amour et puis on est tous là pour soutenir la cause. Donc, mardi matin, on va être au terrain de golf Hawkesbury avec nos invités. Hier, j'ai contacté tous les invités. Ils vont tous être là. Donc, on attend juste à mardi.
Et est-ce que donc tout est prêt là, pour le tournoi? On faut juste aller chercher nos bâtons de golf. Là.
Exactement, oui. On affiche complet. Et puis je pense que tous les golfeurs ont été contactés avec la cédule de la journée et puis ça. Donc, on est prêt. Le décompte est amorcé.
Et Bob, t'es un homme bien occupé parce qu'en ce moment, tu nous parles en direct de Pennsylvanie pour ton école de hockey. Qu'est-ce que tu fais là exactement?
Oui, c'est ma 30e année avec mon école de hockey. C'est une école que j'avais commencé lorsque j'étais entraîneur-chef des Bears d'Hershey de la Ligue américaine. Mm-hmm. Et puis, c'est tellement de belles régions. On a un bel aréna pour, non seulement sur la glace, mais autour, on a des gymnases. On a le parc en arrière avec mini-golf, avec cage de frappeur pour le baseball. On a un petit mini snack bar avec de la crème glacée, ces choses-là. Donc, j'ai 200 jeunes qui viennent d'un peu partout au travers du monde, autant du Québec, l'Ontario, les États-Unis, Tchéquie, la Lettonie. Ça fait 30 ans que ça roule, donc on est bien établi. Puis à chaque année, je viens passer une semaine ici là, pour faire du hockey.
Ah ben c'est super, Bob. On voit que tu es vraiment passionné de hockey. Et je voulais y revenir à cette passion-là, Bob, parce que je sais que tu es une personne très appréciée dans la communauté à Hawkesbury. Puis je voulais plus qu'on apprenne à te connaître, à parler de toi. En fait, premièrement, ça te vient d'où cet amour, cette passion pour le hockey, ton plus vieux souvenir que tu as relié au hockey?
Ben, je pense que mon grand-père, mon père étaient des fanatiques de hockey, donc ils faisaient des patinoires. Mon grand-père faisait une patinoire extérieure, mon père faisait une patinoire extérieure. J'avais des bons amis qui partageaient la passion du hockey aussi, donc on a gagné des Coupes Stanley autant dans la rue ou mm-hmm. sur la patinoire extérieure. Le hockey mineur d'Hawkesbury, dans le vieil aréna en avant du complexe maintenant. Tellement de bons entraîneurs qui m'ont communiqué l'amour du hockey. Donc, c'est un peu ça. Et les plus beaux souvenirs, évidemment, les Coupes Stanley des Canadiens. J'étais au Forum le soir où Jean Béliveau a marqué son 500e but.
Ah ouais. Hein?
Et ensuite, tu rencontres la personne 20, 30 ans plus tard. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Béliveau par après. Puis, je lui disais ça, puis ces choses-là. Donc, tu rencontres tellement de belles choses. Puis le hockey, c'est un sport d'équipe. C'est qu'est-ce que j'aime. J'ai rien contre les autres sports. Mais moi, les sports d'équipe m'attirent beaucoup parce que c'est une journée que tu vas en avoir un peu plus que ton coéquipier. Le lendemain, c'est lui qui va en avoir un mm-hmm. peu plus. On va partager les joies des victoires et les peines des défaites, ces choses-là. Donc, tu sais, c'est... t'apprends un peu et c'est quoi la vraie vie au travers d'une équipe, l'entraide, l'esprit d'équipe, ces choses-là. Donc, puis j'ai été chanceux et j'ai été capable de gagner ma vie dans le hockey. Donc, c'est un choyer de la vie.
Et quelle était ton équipe préférée quand tu étais jeune, ton idole joueur et entraîneur?
Oh, les Canadiens de Montréal, Guy Lafleur, Ken Dryden. Par contre, je dois te dire que avec l'arrivée des Nordiques, avec les Stachny, la rivalité Montréal-Québec, je vais dire, elle m'a séparé en deux parce que j'aimais beaucoup Michel Goulet, beaucoup les frères Stachny. De l'autre côté, j'aimais beaucoup le Canadien, mais je ne sais pas, et j'avais un certain attachement. Je vais dire, je me suis promis sur le top de la clôture, comme qu'on dirait. Et on aurait dit pour quelques années, là, je prenais pour les deux équipes. Je peux pas dire que j'ai, tu sais, dans la grosse rivalité Québec-Montréal, je peux pas dire que, tu sais, j'étais à 100% Canadien ou 100% Québec. On aurait dit que j'appréciais beaucoup de joueurs des deux équipes. Donc, j'appréciais les deux équipes. J'aimais beaucoup Michel Bergeron aussi, de par son style, malgré le fait que j'étais un jeune. Donc, c'était ça, mais c'est certain que, tu sais, on a vécu des années incroyables avec la rivalité nordique-canadienne.
Et Bob, est-ce qu'au départ, tu rêvais d'être un joueur de hockey, de jouer dans la Ligue nationale, ou qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers le coaching?
Oui, bien, c'est certain qu'à titre de jeune ou hockey mineur, je pense que tout jeune rêve de jouer dans la Ligue nationale. Là, comme j'ai dit tantôt, et j'en ai gagné des Coupes Stanley avec mes chums dans la rue ou sa patinoire extérieure. On jouait, on était le Canadien, on était Guy Lafleur, on était Jacques Lemaire, Steve Schott, Serge Chavard et ces choses-là. Fait que c'est certain. Puis en plus, le Canadien collectionnait les Coupes Stanley dans ces années-là.
C'était la belle époque.
fait que c'est certain que ça te faisait rêver à la Ligue nationale, mais t'sais, lorsque je suis arrivé avec les Hawks à 17 ans, j'étais gardien de but auxiliaire, puis j'ai tout de suite compris que il y en a que je pense qu'ils peuvent décrocher plus tôt. Moi, j'ai décroché à 17 ans et j'ai coaché junior par après dans la Ligue américaine. Je pense pas qu'il y a un âge où que tout le monde décroche en même temps. Et je pense que c'est une question de réalité où tu te dis wouf, où c'est que je suis là. Mais je pense pas que ça va arriver. Donc, ensuite, mon père est décédé. Je m'en allais à l'université, décidé de graduer au secondaire, puis d'aller travailler à la CIP à Hawkesbury. Donc, ensuite, travaillé 4 autres années à la PPG d'un pare-brise. Puis c'est là que Jacques Tranchemontagne est venu me voir pour m'offrir le poste de coach de gardien de but avec les Hawks. Et puis, 8 matchs plus tard, j'étais l'entraîneur-chef, puis c'est là que ma carrière a pris son envol. Là. Fait que, tu sais, je vais te dire, j'avais aucun plan de devenir entraîneur. Là. J'étais très content à l'usine avec mes chums, puis je pensais bien peut-être un jour coacher au hockey mineur mon fils, mais ça l'a changé le cours des choses, et puis bang, Jacques Tranchemontagne qui m'avait coaché dans le baseball mineur, voyait en moi un certain leader, puis il me disait t'es capable de coacher, puis moi j'étais pas très très convaincu, mais il était très persistant, puis je vais te dire, il m'a tellement supporté, tellement encouragé que il m'a donné 4 belles saisons avec les Hawks, puis qu'est-ce qui m'a ouvert la porte que les frères Morissette m'ont offert un poste avec Laval au niveau junior majeur, puis ensuite Pierre Pagé avec le club école des Nordiques, pour ensuite l'Avalanche du Colorado et ainsi de suite.
Aïe, aïe, hein. Ouais, tout un parcours. Puis c'est ça que j'allais te dire, Bob, c'est quand, à quel moment que tu t'es dit, là tu étais rendu avec le Laval, tu es allé à Hershey avec les Bears, y a-tu un moment que tu t'es dit, OK, là, c'est sérieux, puis j'ai peut-être une chance de faire le saut dans la Grande Ligue?
Bien, regarde, à 27 ans, lorsque Jacques Tranchemontagne m'a offert le poste avec les Hawks, à la PPG, là, c'était quand même un très bon emploi avec de très bons salaires, de très bonnes conditions. Et je quittais quand même une certaine
sécurité,
pour me lancer dans l'aventure. Puis disons que dans ces années-là, les Hawks, c'était pas les succès succès les plus retentissants. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes chums qui m'ont dit « t'es fou ».
Ah ouais.
Et ces choses-là, ben, je me suis dit, si je suis pour quitter mon poste à PPG, c'est pas pour coacher les Hawks, c'était peut-être un rêve de fou, tu vas me dire. Mais je m'étais dit, si je quitte la PPG, je dois me rendre à la Ligue nationale. C'était peut-être pas, sur l'extérieur, c'était peut-être pas sérieux ou réaliste, mais de l'intérieur, je me disais, c'est pas vrai que je vais quitter la PPG pour juste coacher les Hawks d'Hawksbury parce que je savais que si j'avais une famille à faire vivre, mm-hmm. ces choses-là. J'étais prêt à investir des années, puis à travailler, mais il reste que j'ai été vraiment chanceux. J'ai compté, genre Tranche-Montagne, comme j'ai dit tantôt, les frères Morissette, ils ont été d'une aide absolument incroyable à m'aider à me développer comme entraîneur. Puis ensuite, Pierre Paget me fait confiance dans la Ligue américaine. Pierre Lacroix me fait confiance avec l'Avalanche Colorado. Puis ensuite de ça, ben il reste que tu fais ton chemin par toi-même. Mais avant ça, comme jeune entraîneur, tu as toujours besoin de quelqu'un là, qui va te guider dans la bonne direction.
Bob, là, tu es rendu dans la Ligue nationale, tu es entraîneur-chef. Puis au cours de ta carrière, tu as dirigé des légendes, là, des gars comme Patrick Roy, Joe Sakic, Peter Forsberg, Kovalchuk, Iginla, je pense, à Calgary.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est un peu intimidant ou qu'est-ce que tu dis dans ta tête? OK, ces gars-là ont gagné la Coupe Stanley. Puis comment tu fais pour gagner le respect de ces joueurs-là?
C'est une très, très bonne question. C'est une question que je me suis posée. Et surtout lorsque j'ai été nommé entraîneur-chef de l'Avalanche Colorado, là, mm-hmm. et je me préparais pour le meeting d'équipe en début de camp d'entraînement, puis les Forsberg, les Sakic, les Adam Foote, Patrick Roy, on avait une très bonne équipe, le Claude Lemieux, puis il fallait que, tu sais, moi, là, je sortais d'une usine, puis mm-hmm. ces gars-là, ben évidemment, ils regardaient dans toutes sortes de situations, puis ils disaient, t'sais, là, je me disais, hey, ils vont voir le gars de l'usine à l'entrée là, que ça va être à lunch, des sandwichs. Comment que je peux gagner leur respect? J'ai été les rencontrer personnellement, un par un. Je me suis donné. Je leur ai expliqué un peu qu'est-ce que je voulais faire avec eux. C'était quoi mes visions? Je leur ai demandé aussi ce qu'était leur vision. Pis ça, mm-hmm. c'était important pour moi. Parce que, tu sais, je voulais vraiment faire une connexion. Avant de faire une connexion d'équipe, je voulais faire une connexion individuelle. Je me disais, tu sais, au lieu d'essayer de connecter avec 20 joueurs en même temps, si je peux mm-hmm. connecter avec 20 joueurs individuellement, fait que j'ai rencontré tout le monde afin d'échanger. Ta famille, d'où viens-tu, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tu penses qu'on a besoin d'améliorer pour gagner la Coupe Stanley, ces choses-là. Fait que puis aussi, c'est qu'est-ce qui m'aidait beaucoup, c'est que j'avais peut-être 6 à 7 joueurs qui étaient rendus avec l'Avalanche avant moi, que j'avais dirigé dans la Ligue américaine. Okay. Fait que eux m'ont beaucoup aidé. Mm-hmm. Et ils m'ont guidé un peu, autant que j'étais leur coach. On était devenus amis en raison de notre relation dans la Ligue américaine. Puis ces joueurs-là m'ont bien aidé, mais je veux dire, les Sakic, les Roy, les Forsberg, ensuite les Bourque, les Rob Blake, c'est des personnes exceptionnelles.
Mm-hmm.
La question que je me faisais souvent poser, c'est ce gars-là fait 7 millions, 8 millions, 6 millions. Comment tu fais pour coacher ces gars-là? Ces gars-là, là, c'était des gars tellement ordinaires que c'est certain que nous, de l'extérieur, on regarde le salaire puis on dit wow, c'est des têtes enflées ou c'est des gars qui sont pas coachables, ces choses-là. Je vais te dire, l'Avalanche Colorado, c'est une des équipes les plus faciles à coacher que j'ai eu à diriger.
Wow. Puis, y a-tu un joueur en particulier, Bob, qui est ton préféré ou que tu avais la relation la plus spéciale avec, que tu as eu le plus de fun à coacher, qui est peut-être devenu un ami par la suite, là?
Ben, et je veux dire, j'ai encore des jeunes que j'ai dirigés dans le junior, je leur parle encore, tu sais. Et si on parle des Hawks, j'ai été chercher Éric Veilleux à 16 ans à Magog, 5 pieds 6, 5 pieds 7, mm-hmm. 150 livres. Et puis, je l'ai dirigé pendant 9 saisons consécutives. 2 Hawksbury, J'ai été à Laval, je l'ai amené à Laval avec moi. J'ai été à Cornwall, je l'ai amené à Cornwall avec moi. J'ai été à Hershey, je l'ai amené avec moi. On a gagné 4 championnats en 9 saisons ensemble. C'est un peu comme mon deuxième fils. La même chose pour Dominique Ducharme. Et, tu sais, je l'ai dirigé. Ensuite, il a dirigé mon fils Steve. Ensuite, ils ont gagné la Coupe Memorial avec Nathan McKinnon à Halifax, ensemble comme entraîneur. Joe Sakic au Colorado, son surnom était Ordinary Joe.
Ah ouais.
Joe l'ordinaire, parce que il était tellement minuté. C'est un athlète tellement respectueux de lui-même qu'il y avait des valeurs incroyables, et des valeurs de travail, des valeurs de respect, la passion d'un Patrick Roy. Je vais dire, Alex Tanguay est arrivé avec moi tout frais du junior, mm-hmm. et puis bang, on a gagné une Coupe Stanley. Je communique régulièrement avec Alex. Ilya Kovalchuk, que j'ai eu à Atlanta, c'est lui qui m'a amené en Russie, et puis regarde, on a toujours gardé le contact. Donc, et c'est certain que c'est un sport d'équipe, surtout au niveau de la Ligue nationale, il y a des gros sous qui sont impliqués. Tu te feras pas toujours des amis partout, mais ça, je pense que c'est un peu la business, pas juste du hockey, c'est la business du business, là. Tu essaies de plaire à tout le monde, mm-hmm. mais tu sais, dans un contexte d'équipe, tu pourras pas plaire à tout le monde. Tu sais, parce que autant que tu veux être égal avec tout le monde, les responsabilités ne peuvent pas être égales. Le traitement peut être égal, mais les responsabilités ne sont pas égales. Toi, comme entraîneur, tu vas avoir un peu plus confiance à un certain joueur que peut-être moi, je vais avoir confiance en lui. Mm-hmm. Donc, puis lui, le joueur, ben, il se voit d'une certaine façon, son agent le voit d'une certaine façon. Il y a peut-être un joueur qui se voit en avant d'un autre joueur à qui je fais peut-être un peu plus confiance, mais il reste que, tu sais, avec une bonne communication, ben, tu évites souvent des problèmes, au moins tu viens peut-être à comprendre des situations, puis c'est comme ça.
Puis qu'est-ce que tu dirais, une bonne qualité que doit posséder un entraîneur, par exemple, qu'est-ce qui explique le succès que tu as eu dans ta carrière?
Ben, peut-être, un, la communication, puis deux, le fait que j'ai su m'ajuster au changement de hockey, changement de, tu sais, quand j'ai commencé en 87 à Hawkesbury, il y a des joueurs, là, avant que la neige tombe, il y a des joueurs qui venaient en vélo à l'aréna. Mm-hmm. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, tu sais, je suis parvenu à gagner des championnats. Mon premier championnat était en 90-91. Ensuite, 89-90, 90-91, je crois. Ensuite, 92-93. À Hershey, 96-97. Ensuite, Ligue nationale, 2001. Ensuite, en Suisse, en 2011. Ensuite, en Russie, en 2021 et ouais. en 2025. Donc, tu sais, si tu regardes gagner des championnats en 1990, gagner des championnats en 2021, c'est 30 ans, c'est 3 décennies de différence.
Ouais.
La société, elle a changé beaucoup. Quand la société change, bien évidemment, les gens changent. Les perceptions, les mentalités, les façons de faire, les salaires, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il faut que tu t'agisses au point de vue de la communication, au point de vue de gérer la pression qui est autour de ton équipe, autour de tes athlètes. Tu sais, il y a des athlètes qui naviguent très bien dans la pression. Il y en a d'autres qui ont une peur effrayante de la pression, mm-hmm. pression de gagner, la pression des médias, la pression des fans. Donc ça, c'est quelque chose, je me suis toujours appliqué, mes méthodes, d'essayer d'arriver avec des nouveautés pour c'est pas se faire traiter de coach de vieille école, si tu mm-hmm. veux.
Ouais, ouais. Et dans ta carrière, Bob, ça a été quoi la... T'as-tu eu des décisions difficiles à prendre ou quelle a été la plus grande épreuve dans ta carrière?
La décision la plus difficile, c'est en 97, lorsqu'on a gagné la Coupe Calder. Le soir de la 7e match contre Philadelphie, notre ennemi juré à Hershey, on a été les battre à Philadelphie, le match numéro 7, pour accéder à la troisième ronde. Et puis, mon boss, Pierre Lacroix, avait descendu de Colorado pour m'annoncer que je m'en allais rencontrer Réjean Houle le lendemain matin. Et puis que c'était à moi la job de diriger le Canadien de Montréal, mais il fallait que je quitte l'équipe tout de suite.
Ah ouais.
Il fallait que je quitte mon équipe de chez. Et puis, je me souviens, j'ai pris les billets d'avion. J'ai fait 3 pas. On était sur le banc des joueurs parce que là, le match était terminé. Puis, les gars célébraient un peu dans la chambre, ces choses-là. Donc, on avait une certaine tranquillité sur le banc des joueurs. Là.
Ouais.
Et l'aréna était vide. Et puis, j'ai fait 2-3 pas là, pour. J'ai parti avec les billets d'avion. J'ai reviré de bord. Puis, j'ai redemandé à Pierre Lacroix. J'ai dit. Je peux pas quitter ce club-là, là. Puis j'entendais mes gars crier dans la chambre parce qu'on avait gagné. J'ai dit, écoute-les, célébrer, puis tout ça. Je peux pas quitter. Il dit, hey. Puis le Canadien, il était éliminé de toute façon. Mm-hmm. Ben, c'est ça qu'on se comprenait pas, là. C'était juste pour septembre prochain. Puis je dis à Pierre Lacroix, j'ai dit, moi, là, depuis le début du camp d'entraînement, je dis à ces gars-là qu'on est une famille, qu'il faut se tenir ensemble, puis. Tu sais, qu'on est des frères. Puis j'ai dit, là, m'a rentré dans la chambre, m'a leur dire, les boys, je viens de coacher ma dernière game, le reste des séries éliminatoires, vous allez faire votre chemin par vous-même. J'ai dit, je me sens pas bien là-dedans. Fait que j'ai dit, regarde, j'ai dit, coacher le Canadien de Montréal, c'est mon club d'enfance. Mais j'ai dit, je peux pas lâcher ma gang. J'ai dit, ça, c'est mon club, c'est. On a grandi ensemble.
Oh, ouais.
Une année incroyable. On est à 8 victoires de la Coupe Calder. J'ai dit, je vais me faire peut-être éliminer en 4. Là, j'ai dit, à la prochaine ronde. J'ai dit, dis aux Canadiens de m'attendre. Hein, il dit, ils peuvent pas attendre. Ils veulent que ça soit tout de suite. Il dit, ton billet d'avion, c'est demain matin. Bon, ben, c'est comme ça. J'ai dit, dis-leur que je vois pas. Fait que j'ai jamais pris le fameux avion. J'ai resté avec les Bears. Et puis là, il m'a fait une caresse, puis il m'a dit, tu sais, t'es un vrai, c'est incroyable, ta loyauté pour tes gars. Il dit, tu vas coacher pour moi un jour. Il dit, tu vas coacher l'Avalanche Colorado, je te le promets. Ça fait que c'était correct, fait que c'est comme ça que ça finit.
Wow, c'est tout en ton honneur, Bob, je savais pas ça. Fait que ouais. T'as eu l'occasion de coacher le Canadien, puis t'as refusé.
Ben, puis regarde, disons que... J'ai décidé de rester avec ma gang au lieu de refuser de coacher le Canadien. Tu peux l'interpréter de la manière que tu veux. j'avais poussé ce club-là, on avait grandi ensemble, j'avais une belle équipe, j'avais confiance en eux, puis je les aimais.
Oh.
Et j'aurais trouvé vraiment ma décision de partir est vraiment égoïste de ma part. T'sais, parce que moi, j'ai tout le temps dit, on est une famille, on gagne ensemble, on perd ensemble. On travaille ensemble, puis la loyauté, puis tu sais, j'ai poussé ces mots-là toute l'année, et ça n'aurait pas été correct pour moi le premier, surtout le coach en chef, surtout moi, celui qui prêchait ces valeurs-là, de partir, puis c'était Réjean Houle qui était le directeur général du Canadien à ce temps-là, puis j'ai jamais eu la chance de m'asseoir avec, puis de lui demander, tu sais, pourquoi que tu n'étais pas prêt à attendre que je me fasse éliminer ces choses-là. Et je le sais pas, mais regarde. Et j'ai gagné la Coupe Calder, fait que ça l'a guéri ma plaie, si tu veux. Puis 2 ans après, ben un an après, j'étais coach de l'Avalanche Colorado. J'ai bu dans la Coupe Stanley, ces choses-là. Donc,
tout
s'est bien déroulé.
Ça t'a bien servi par après.
Ouais,
puis
exactement.
C'est qui a été engagé? C'est-tu Alain Vigneault dans le temps?
Oui, Alain Vigneault, oui. Alain Vigneault.
Ah ouais, hein? Ben j'en apprends une bonne, je le savais pas, ça, Bob.
Ouais.
Et... Toi, Bob, ton voyage t'a amené un petit peu partout dans le monde. T'es parti un petit gars de Hawkesbury, t'es passé par Laval et ensuite les grandes villes aux États-Unis, la Pennsylvanie, le Colorado, Atlanta, Calgary, Zurich, Omsk, Yaroslav en Russie. Ça a été quelle la ville, ta ville préférée, qui t'a le plus marqué et pourquoi?
Moscou. La beauté de Moscou, c'est incroyable. La propreté de Moscou, la beauté des édifices. J'ai beaucoup aimé Zurich, je vais dire, le wow, là, t'arrives autour du Kremlin, puis les restaurants, puis les rues, puis décorations de Noël, ces choses-là. Et pour moi, Moscou, c'est la plus belle ville que j'ai vue.
Ah oui, hein? Ça doit être des paysagers aussi, parce que c'est... C'est, il n'y a rien qui ressemble à ça en Amérique.
Bien, je veux dire, les arbres sont pareils comme nous, les parcs, ils ont des parcs absolument incroyables. Ils ont des patinoires, là, des milles et des milles au travers des forêts que j'ai fait. Je veux dire, c'est... Tu sais, puis peut-être que je suis arrivé là, en Russie, tu sais, parce que ici au Canada, en Amérique du Nord, lorsqu'on était jeune, on entendait tout, parce qu'évidemment, c'était... le communisme et c'était l'Union soviétique. Tu sais, on entendait tout le temps que...
Le rideau de fer.
C'est le rideau de fer, que les gens étaient méchants, que c'était laid, que c'était sale, ces choses-là. Donc, tu sais, j'étais arrivé un peu sur les talons, puis dire, ben, ouais, parce que j'avais refusé quand même plusieurs offres en Russie avant qu'Ilya Kovalchuk me convainque d'y aller. Donc, tu sais, j'étais arrivé là avec certains soucis. Et puis, tout de suite, je suis arrivé là, mais tu sais, le changement était tellement radical que c'est peut-être ça qui m'a fait le wow, là, tu sais, ouais. Parce que tu sais, je me suis promené avec mon épouse dans Moscou et puis ces choses-là, puis le Kremlin, puis toutes les grandes villes, puis les grandes rues de Moscou, puis je vais te dire, ça m'a beaucoup impressionné.
Et Bob, écoute, t'as plus besoin de présentation. T'as connu énormément de succès dans ta carrière. T'as remporté des championnats avec les Titans de Laval, les Bears, la Coupe Stanley avec le Colorado, deux coupes. Il y a la coupe avec le championnat avec la Suisse en Zurich, deux coupes Gagarine, une que tu viens de remporter avec le Lokomotiv Yaroslav. De toutes ces victoires-là, de tous ces trophées-là, c'est laquelle la plus marquante et que tu as le plus de fierté?
Je vais dire, la plus spéciale, évidemment, c'est la Coupe Stanley, parce que c'est ton rêve de petit gars.
Mm-hmm.
Mais par contre, tu sais, avec les Hawks d'Hawksbury, mais pour moi, ça m'a, tu sais, on a gagné deux championnats consécutifs, mais évidemment, ça m'a ouvert des portes, puis les Hawks d'Hawksbury, c'est chez nous.
Mm-hmm.
C'était avec les bénévoles qu'on a accompli ça, puis le complexe était plein à craquer, puis on a eu des beaux matchs, ensuite à Laval, à Hershey. À Hershey, on a fait face à l'élimination 5 fois, là.
Mm-hmm.
Puis ça fait un championnat spécial. Je me souviens, toi, qu'est-ce que je viens de te raconter.
Je dis non
aux Canadiens. Juste avant ça, on tirait de l'arrière 3-2. On a gagné le 6e match chez nous en triple prolongation pour aller battre Philadelphie au Spectrum de Philadelphie devant 15 000 fans absolument bruyants. C'était une jungle, pour ensuite perdre les deux premiers matchs après avoir dit non aux Canadiens. Perdu les deux premiers matchs chez nous, je m'en vais sur la route pour 3. Puis on vient à bout de revenir en déficit de 1-3, de 3-2, je veux dire. Et puis pour gagner le match 6-7 à Hershey, la Coupe Stanley, ensuite en Suisse, les deux championnats Russie. Chaque championnat a sa propre saveur. Là. Chaque championnat a son livre, parce que tu regardes le dernier championnat avec Yaroslav, on perd 3-1 en troisième ronde. On gagne le quatrième match 4-0. On s'en va à Omsk pour match numéro 5. Attends une minute, là. Match numéro 5, on perd 3-1. Match numéro 5, on gagne 4-0. Mm-hmm. Match numéro 6, on perd 2-0. Il reste 31 secondes. Les gens à Omsk chantent « Nanana, goodbye ». On marque un but à 31 secondes, on nivelle la marque à 11 secondes pour gagner en double prolongation. On s'en va chez nous, le match numéro 7. On perd 3-1. On fait 3-2 à 1 minute la fin de la deuxième période. On nivelle à 10 minutes de la fin pour encore une fois gagner en double prolongation. Il va dire, si, tu peux pas dire que c'est pas déjà bien ça. Ça nous permettait d'aller en finale. Mais il reste qu'on était à 31 secondes de se faire éliminer, puis on perdait 2-0. Là.
Ouais.
C'est pas à tous les jours que, tu sais, Dame Chance, ça a été sur notre côté, vraiment là-dessus. Tu sais, chaque championnat, on peut écrire un livre sur chaque championnat, tu sais, parce que tu l'apprécies, parce que tu lèves le trophée, mais en bout de ligne, le trophée relève de pratiquement 10 mois de travail. Là. Ouais. Les entraînements, les meetings, les blessures, les gars, là, les hauts, les bas, tu joues bien, tu joues mal, sont contents, c'est pas content, ces choses-là. Mais là, tu mijotes tout ça ensemble pour les séries éliminatoires, puis le gâteau, il lève dans le bon temps, comme qu'on dit, puis bang, tu gagnes, ben, c'est magique. Là, c'est la passion de gagner. Là, et tu joues dans la rue, puis tu vois des petits gars qui pleurent parce qu'ils ont gagné, ils ont perdu un match dans la rue. Ben, tu sais, que tu sois au niveau junior, professionnel, n'importe quel niveau, quand tu gagnes, surtout en équipe, ben, c'est des émotions, puis c'est des heures de travail, puis finalement, ben, tu finis par dire, on est la seule équipe à pouvoir toucher quelconque trophée, là.
Ouais, c'est blood, sweat and tears, comme on dit.
Hein. C'est ça, exactement.
Et Bob, tu viens d'annoncer ta retraite il n'y a pas si longtemps. Quand tu regardes tout le chemin que tu as accompli, ton parcours et le fait du jeune Bob Hartley qui quitte Hawkesbury, puis tu m'as dit en début d'entrevue que c'était risqué, puis est-ce que tu aurais pu t'imaginer où, tout le chemin que ta carrière t'a permis d'accomplir, tout ce qui s'est passé?
C'est surtout les gens qui m'ont aidé. Mm-hmm. Parce que partout, en Suisse, Junior, Laval, Côte-Noire, Le Houcher, Colorado, Atlanta, Calgary, à Omsk, à Yaroslavl, je vais dire, je suis un être chanceux parce que je te dirais que sur 100% des gens que j'ai travaillé avec, là, autant les patrons, les joueurs, le personnel de soutien, tous ceux qui faisaient partie de l'équipe, là, je leur donnerais probablement 97-98% parce que tu peux gagner avec des mauvaises personnes. Fait que j'ai été une personne très, très choyée de toujours tomber dans une bonne gang, de tomber avec des gens qui voulaient travailler, qui voulaient partager des idées. Moi, de mon côté, je suis capable d'écouter, je suis capable de partager, je suis capable de faire la part des choses, même si je suis l'entraîneur-chef. Mes partenaires, les gens qui m'entourent ont une voix. Mm-hmm. Puis, tu sais, je les ai toujours écoutés, puis je leur disais, je vais vous écouter. Ça ne veut pas dire que je vais faire à vos idées, mais c'est certain que je vais peser le pour et le contre. Et souvent, je leur disais, j'aime ton idée, je vais apprendre. Et puis, pourquoi? Parce que c'était des bonnes personnes, j'avais confiance en eux. Donc, je vais dire, c'est ma recette de ma carrière, là, c'est les gens qui m'ont entouré. C'est aussi simple que ça.
Très humble de ta part, encore une fois, Bob, tout en ton honneur. Il me reste deux questions, Bob Hartley, parce que je pourrais parler comme ça avec toi pendant 2 heures. Puis, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération d'entraîneurs qui rêvent un jour d'atteindre la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que tu leur dirais?
Enseignez votre passion aux jeunes. Hey, c'est un beau sport d'équipe. C'est certain que la plus grosse erreur qu'on fait au hockey mineur, c'est qu'on veut le même rêve que le pro. Hey, c'est de gagner toujours à tout prix. On met des jeunes sur le banc pour favoriser peut-être des plus talentueux à des âges tellement jeunes, 6, 7, 8 ans, parce qu'on veut gagner. Et partager la passion du sport, l'amour du sport, que c'est un jeu pour ensuite bien vous entourer. Entourez-vous de bonnes personnes, puis vous aimez le hockey, vous en mangez du hockey, mais montrez-les, mm-hmm. Montrez-les, communiquez-les, et puis c'est pas toujours le fun. Là, j'en ai eu des personnes là, qui, de temps en temps, là, c'était compliqué, mais il reste que c'est pas juste au hockey. Là, on a des auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent dans toutes sortes de métiers. Et puis que ce soit des choses qui arrivent dans ton métier ou des gens qui t'entourent, il y a des gens qui vont te rendre la vie facile, il y en a de temps en temps, puis c'est peut-être pas tous les jours, mais il reste que, tu sais, faut que tu trouves une façon d'être confortable dans l'inconfortable. Mm-hmm. Et puis une fois que tu acceptes ça, ben je pense que ça fait de toi une meilleure personne, et puis tu es capable d'affronter les défis qui se présentent devant toi, puis tu gagneras pas toujours. Mais il reste que si tu le fais de façon honnête, ben je pense que les gens vont te respecter.
Et je viens de penser à une question aussi, Bob, parce que ça vient tout juste d'arriver. C'est une technicalité dans la Ligue nationale là, que Daniel Brière a peut-être bien mis une nouvelle règle avec l'offre hostile qu'il a faite aux joueurs des Ducks d'Anaheim, Leo Carlson, qui vient de signer 5 ans pour 18 millions, le joueur le plus payé de l'histoire de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que maintenant, on peut penser à des joueurs comme McLean Celebrini qu'il va dire « OK, ben moi, je vaux plus que 18 millions. »
C'est le jeu des comparables. Hein? Les agents regardent ça. Mm-hmm. Quand les agents viennent nous voir, là, viennent voir nos directeurs gérants, ils ont toujours une liste de comparables. Mon joueur a fait tant de buts. Regardez ce que tel joueur des autres équipes ont fait avec moins de buts, puis ils font mm-hmm. beaucoup plus d'argent. Fait que c'est le jeu de la négociation. Le cap salarial monte. La Ligue nationale fait des profits incroyables. Donc, il y a une entente qu'on partage les profits avec les joueurs. Donc, il y a un cap salarial, il y a une mathématique à faire. Je pense qu'il y a une certaine guerre en raison de Cutter Gauthier entre les Flyers et les Ducks.
C'était donc, peut-être une petite flèche.
Oui, exactement. C'était le retour du balancier qu'on essayait de lancer une flèche du côté des Ducks. Mais il reste que là, maintenant, avec ce contrat-là, ben, on vient d'ouvrir le marché au travers de la Ligue nationale. Donc, les agents se frottent les mains, ça c'est certain.
Et dernière question, Bob Hartley, puis je voulais, c'est juste pour le fun, là, on jase pour jaser, pour le plaisir, parce que je sais que tu as annoncé ta retraite, mais si tu pouvais choisir n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale en ce moment, ce serait laquelle que tu aimerais coacher?
Tu sais, il y a un vieux proverbe qui dit « qui choisit prend pire hein? ». Mais il reste que, il y a des beaux marchés, il y a de belles équipes, puis il y a aussi de bonnes personnes à travailler. Il y a toujours trois, tu sais, tu regardes toujours, quand tu prends des décisions, tu regardes le marché, la ville, est-ce que c'est une place de hockey, est-ce que c'est une place qui a beaucoup de pression, pas de pression. Moi, la pression m'a jamais fait peur. Donc, j'ai jamais choisi en vue de la pression. Ensuite de ça, l'équipe. Est-ce que l'équipe est bonne, est-ce que l'équipe est pas bonne? Est-ce que l'équipe est en reconstruction? Est-ce que ça va prendre 5-7 ans à mettre ça en ligne droite ou est-ce qu'on me donne le mandat de gagner une Coupe Stanley? Puis ensuite de ça, ben, tu regardes avec qui tu vas travailler. Et quelles sont les conditions avec qui tu vas travailler? Est-ce que tu sens qu'il y a un certain fit qui peut et une certaine chimie qui peut bien s'installer? Donc, tu sais, pour te dire, là, je ne m'arrête pas à penser à ça là, et regarder. Je suis bien. Je me suis dit que je voulais pas faire aucun temps d'entraînement. Je voulais passer septembre, octobre et je voulais passer Noël avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes grands-enfants, avec mes petits-enfants, je veux dire. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Donc, de cette façon-là, ben, avec les critères que je me suis fixés, ben, d'aucune façon que je pouvais coacher. Donc, pour moi, là, c'était aucunement que je commence une saison parce que je veux passer septembre, octobre avec ma gang, faire des choses, ces choses-là. Je veux passer Noël chez nous. Mes enfants, ma femme, les petits-enfants viennent passer 2-3 semaines à tous les Noëls. Ça, c'est très important pour moi. Puis, au cours des dernières années, mais malheureusement, tu sais, j'étais en Russie. J'ai pas vécu ça. Donc, papy va être autour de ses petits-enfants pour les voir développer les cadeaux.
Bob Hartley, merci tellement pour le temps que tu m'as accordé. C'est très inspirant, l'entrevue que tu viens de m'accorder. Et puis, bon retour de Pennsylvanie aussi. Et j'espère pouvoir te serrer la main mardi prochain au tournoi de golf de Paroisse Saint-Pierre-Apôtre.
Parfait, mon Guillermo. T'es très gentil. Merci beaucoup.
Merci Salut beaucoup, bien. Bob. Salut à bientôt. Bye-bye.
Cet épisode de Guillermo sur la Go a été rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
92.1 Go FM.